Le temps ne veut plus rien dire. Ma tête tourne, 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 tourne. Comme une bête enfermée, je suis folle alliée. Maudite société, n'as-tu rien d'autre à nous offrir que les mots et les images de ta télé? N'as-tu jamais entendu dans cette jour, le jour, le jour, le jour, les cris et les plaintes des forces à modèle? À quoi vont crier dans cet univers déshumanisé? Les murs et les portes n'auront plus d'oreilles. La souffrance et le supplice sont vraiment double, 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 double. Quand pour pouvoir cantiner, je dois boulonner. Mais quel est le goût de votre prétendue liberté? Celle qui tous les jours vous envoie bosser. Il arrivera le jour de la belle, 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 où je démolirai mon pauvre débarron.
Bruit de tôle, une émission qui veut agir pour la suppression des prisons et pour la remise en cause du principe de punition et de contrôle. Nous voulons nous attaquer aux murs plus ou moins visibles des institutions qui diffusent l'enfermement et la soumission dans tous les plis de la société, comme la famille, l'école, l'hôpital, les maisons de retraite, celles de la culture et bien d'autres. Le système judiciaire resserre l'étau sur les pauvres et les insoumis, les classes dangereuses en somme. Il enferme de plus en plus tôt, sous prétexte de délinquance juvénile, de plus en plus souvent en allongeant la liste des délits et pour des peines de plus en plus longues. Et malgré une croyance tenace qui veut que la prison soit toujours réservée aux autres, la menace permanente qu'elle laisse planer sur l'ensemble de la population entretient la peur et la soumission. Longtemps tabou, la prison est devenue un sujet médiatique, à la mode, pour spécialistes de toutes sortes. Sociologues, médecins, criminologues, politiques, occultant toujours la parole des personnes enfermées. Bruit de tôle se veut un espace de réflexion sur les enfermements, un lien entre l'extérieur et l'intérieur des murs. Ce que nous voulons, c'est mettre en évidence les rouages d'un ordre social qui prétend gérer nos vies, nous soumettre à l'État, et désamorcer, assimiler, digérer, récupérer toute déviation, colère ou révolte. Nous rêvons d'une société sans maître ni esclave, sans coupable ni victime, sans juge ni condamné.
Bonsoir. Donc, au sommaire de cette émission de Bruit de tôle du jeudi 30 juillet 2015, nous commencerons par un état de la justice en France, avec une procureure qui semble passionnée de génétique, l'analyse de la surpopulation carcérale, notamment à Nîmes, comment l'administration pénitentiaire se défausse d'une accusation de fouille à nu, et aussi sur la résistance des prisonniers à Réau. Dans la partie internationale, nous aborderons le cas de Sandra Bland, jeune femme noire décédée suite à son arrestation, et cela remet en avant la violence des policiers américains. Nous parlerons aussi d'Israël qui emprisonne des enfants palestiniens pour jet de pierre. Et enfin, traiterons de la collaboration des polices espagnoles et françaises qui poursuivent le harcèlement des militants basques. En dernière partie, il sera question de Christine Rebailly, révoltée, insoumise, qui exaspère les matons de FO. D'un tir de flashball aussi, nous parlerons sur un jeune à Argenteuil et de la répression de la presse alternative autour du cas de la feuille de chou. Bruit de tôle est en direct le jeudi de 19h à 20h, en rediffusion le vendredi de 17h à 18h et en écoute sans limite sur le site de canalsud.net. Donc aujourd'hui jeudi, vous pouvez nous téléphoner au 05 61 53 36 95 et de préférence pendant la musique.
Et d'ailleurs, on va écouter Première ligne avec le morceau Apache.
Première ligne, première ligne, première ligne. Deux. Je suis comme une bombe, je rafle des comptes, leur monde flambe. J'ai déjà des cendres sur mes pompes. Y'a pas d'alternative, ok, admettons que du sang d'innocents coincés dans le béton. Demande aux Cheyennes, aux Apaches, histoire avec un grand H. Les machettes deviennent des calaches. C'est la suite logique, La contre-attaque en kilowatts, en Air Max, en Stub et Carhartt. Mec, on connaît nos villes et nos cibles. On connaît Fanon, on manque juste les canons, les charges explosives. On sait qui nous blâme et de qui ils veulent se moquer. Le combat final sera de toute beauté. Une seule barricade de côté. Très peu de survivants, plus de 2000 ans à se faire provoquer. Conséquence, on lâche hop. C'est sur du boom bap que t'auras la date où tout va sauter.
Je suis la vache, je suis la vache. D'un mot, commence à prendre les soldats.
Tant de débattre avec les pauvres.
C'est ce qui les mène. Je n'aime pas la carte et le fusil dans les
yeux. Je n'irai bien, partirai dans le char, dans un sursaut du système.
Je suis la vache,
qui rêve de les crever.
N'oublie pas la haine, la hague, la policière.
Je n'aime pas la carte et le fusil dans les yeux.
Aujourd'hui on t'emmerde. Demain on passe à l'étape suivante.
À l'assaut du ciel et de la terre de feu, je ne crains ni la mort ni le roi des cieux. Désireux d'en venir aux mains le plus vite possible. Serpent venimeux, j'étrangle tout ce qui m'est nuisible. Épris de liberté, passionné de l'être. Mon amour est enfoui au plus profond de mon être. Caractère épique, vas-y capte la technique. Le soufre transpire de mes nouvelles écrits. B-boy conscient. Guerre, est-il besoin de le préciser? C'est son cortège de mort innocente que l'on vient briser. Que les drapeaux se hissent en haut de la poudrière. Et que se lèvent nos poings et nos calibres sur la bannière. Première ligne, c'est pire que la guerre des tranchées. C'est la matrice en place que l'on vient débrancher. La suprématie blanche est ébranlée. Bourra, Géronimo, il se bat, y'a pas que la terre qui va trembler.
Je suis la vache, je suis la vache.
D'un mot, commence à prendre les soldats.
Certains de débattre avec les pauvres.
C'est ce qui les mène.
Je suis mal à la carte et le fusil dans les yeux.
Je n'irai bien, partirai dans le char, dans un sursaut du cité.
Je suis la vache, je suis
la vache. Les crever. Garde ta morale, connard, et va pas du rappel ailleurs.
Je suis mal à la carte et le fusil dans les yeux.
Aujourd'hui on t'emmerde, demain on passe à l'étape suivante.
Voilà, vous êtes bien dans Bruit de tôle et on va commencer cette émission par le jugement de Salah, 37 ans, mère de 5 enfants, qui a été donc jugé au tribunal de Marseille pour des faits de vol et d'escroquerie sur des personnes âgées. En fait, elle a suivi des petits vieux pour leur prendre leur carte bancaire et faire ses emplettes au tabac. Elle plaidait l'état de nécessité et elle s'excusait de ses actes. Le président la corrige dès l'entrée de ses excuses en disant que les excuses c'est toujours bien mais ça vient à la fin. Alors merci le président. Alors Salah, elle reconnaît les faits, le président égrène les condamnations qui sont assez nombreuses. Elle prenait en fait la carte bancaire de touristes qui étaient en vacances par là ou de retraités au marché. Et donc cette fois-ci elle est jugée pour trois vols sur des victimes de 69, 75 et 80 ans. Bref, les victimes à la barre se disent perturbées pendant plusieurs jours de ce vol, et en fait la seule victime qui a bien voulu témoigner, en fait, la personne Salah donc n'avait pas utilisé sa carte, et la procureure directe lui dit vous avez pas réussi. Et en fait justement c'est cette procureure qui commence à être intéressante vu ce qu'elle nous raconte. En fait elle débute un réquisitoire assez enflammé. La procureure parle. Quand je vois cette prévenue qui se la pète à mort, quand on voit cette jeune fille suivre les bons conseils de sa maman, parce qu'apparemment elle était avec sa fille, et vient la qualité des victimes qui gonfle l'immoralité du forfait, évidemment. Je suis touché, nous dit la procureure, car j'estime qu'on doit aux personnes d'un certain âge plus que du respect, on leur doit la tranquillité. Alors, elle continue. Vos excuses qui sonnent comme un leitmotiv, combien de fois avez-vous dû les présenter? Déjà en 99, puis les fois suivantes, vous devriez avoir une plaque à votre nom. Donc quand même. Et puis ensuite, elle continue. Elle déclare quand même à la prévenue. Vous êtes mauvaise, méchante, sans foi ni loi. Et encore, je pèse mes mots, car contrairement à vous, c'est la dignité qui m'habite. Vous qui choisissez vos victimes âgées de 75 à 85 ans, vous osez présenter vos excuses. Tout cela est artificiel. C'est un rôle de composition. Alors là, tout le monde dans le tribunal forcément est sonné, et donc Salah, elle conserve un air neutre, quoi, disons. Et la procureure, là, elle commence à s'enflammer complètement. Elle dit « Vous êtes une voleuse, madame, et vous serez toujours une voleuse. C'est comme ça, c'est dans vos gènes. » Alors là, le président, forcément, le juge, commence à sursauter. Il dit « Bon, on a compris ce que vous pensez de la prévenue. Maintenant, vos réquisitions, s'il vous plaît. » La proc lève le doigt et dit « Je continue !» Alors j'essaye de faire la proc. Le président donc commence un petit peu à s'énerver. « Je vais suspendre si ça continue comme ça. » Et donc la proc continue encore, je dis je continue, je demande 3 ans ferme avec mandat de dépôt, donc pour des vols. Hein. Et donc là, l'avocat qui vient plaider derrière dit qu'il est effaré, abasourdi, et il s'interroge, il se tourne vers Salah et dit « Madame, auriez-vous un gène de voleuse ?» Puis vers le tribunal, il n'y a pas de gène de la délinquance, mais alors si d'aventure elle en avait un, je vous demande de la déclarer irresponsable, ça semble logique. Et puis il se tourne vers la procureure et lui dit texto « Qui êtes-vous pour la juger de cette sorte est-ce que la société peut tenir ces discours-là dans ce cas qu'on la mette en prison pour 30 ans à perpétuité ?» Il demande de l'aide pour Salah, une peine aménagée, une mise à l'épreuve. C'est pas génétique, c'est un parcours de vie, nous dit-il. Et donc, enfin, dit-il au tribunal. Donc, Salah, qui n'a pas osé s'excuser de nouveau, refuse de reprendre la parole à la fin de son procès. Et en fait, elle prend quand même 12 mois de sursis et 6 mois de ferme en mandat de dépôt directement et 500 euros de dommages et intérêts pour la vieille dame qui était là et qui se plaignait de ce vol. Donc voilà les procureurs qu'on a au barreau de Marseille. Merci à elle. En tout cas, elle restera dans les annales des procureurs racistes et complètement débiles.
Je pense que ça serait intéressant un jour de se pencher sur la formation des procureurs et d'où ils sortent. Parce que franchement, entre la théâtralisation...
C'est l'ENM, quoi, l'École nationale de la magistrature, comme les juges, je pense.
Oui, mais c'est quand même certain, là. Ouais. Procureur, une espèce d'élite, là, à jouer du théâtre. Parce que là aussi, c'est à la fois théâtral et complètement odieux, quoi. Mm-hmm.
Ouais. Bah, quand on a envie de faire proc, de toute façon...
Ouais, ça serait bien quand même une petite sociologie.
Allez, pourquoi pas.
Autour
sociologie
de ce personnage,
des procs.
Ouais.
Ouais, c'est encore un peu plus tendu quand c'est les juges qui font usage de gens de vocabulaire et malheureusement ça arrive quand même régulièrement. Ouais. Alors on va continuer avec la question de la surpopulation carcérale dans la maison d'arrêt de Nîmes, dont vous avez dû déjà entendre parler puisque ça fait un peu les titres, mais sauf que les titres de la presse, sauf que bon. On nous explique quand même pas très bien de quoi il s'agit. Donc c'est le juge des référés du Conseil d'État qui a examiné donc hier le 29 juillet en appel une requête en référé liberté soutenue par l'Observatoire international des prisons, donc l'OIP. Celui-ci dénonce les conditions de détention de la maison d'arrêt de Nîmes, l'une des plus surpeuplées de l'Hexagone, avec 186% au 1er juillet 2015, d'où découlerait toute une série d'atteintes graves aux droits fondamentaux des personnes détenues. Donc on a entendu un peu partout l'une des plus surpeuplées de France, mais non, c'est pas de France, c'est de l'Hexagone, puisque dans les DOM et les TOM, il y a des prisons qui sont encore plus surpeuplées que celles-là. Donc le tribunal administratif de Nîmes avait rejeté le référé liberté de l'association le 17 juillet 2015, estimant qu'en l'absence de constatation de nouvelles atteintes, la condition d'urgence requise par le code de justice administrative n'était pas remplie. L'urgence est caractérisée dans la mesure où il y a une atteinte patente aux droits fondamentaux, a estimé Nicolas Ferrand, responsable du contentieux à l'OIP. Selon l'OIP, les conditions dénoncées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté en 2012 sont toujours d'actualité. L'avocat de l'association, Patrick Spinozia, a enchéri « Nous sommes dans une urgence objective, comme dans le cas de la prison des Baumettes de Marseille, où un référé liberté avait abouti en se fondant sur des arguments similaires. » D'ailleurs, en début d'audience, le juge a admis que la situation s'inscrivait dans le cadre juridique de ce précédent. Donc en défense, le ministère a argué d'une baisse structurelle de la surpopulation, puisqu'elle était de 217% en mars, et donc elle est arrivée à 86% en juillet.
Ça donc baisse structurelle de la surpopulation, ça fait penser à la version de la courbe du chômage un peu. C'est...
Donc,
de 217 à 186, on
c'est
est passé.
Ça. Et le ministère se félicite puisqu'il dit que c'est dû aux mesures efficaces prises par l'administration et grâce à la réforme pénale qui, pense-t-il savoir, a un effet notoire sur la baisse de la population carcérale. Il n'y a en outre que 4 matelas au sol contre 10 auparavant. Donc selon Patrice Spinozzi, cette baisse de la population se fait au gré des transferts de détenus et donc conjoncturelle et non pas structurelle. Le juge s'interroge. Si aucun nouveau rapport n'a été publié, quel élément déclencheur de la requête ? Début 2015, 2 détenus écrivent pour dénoncer des atteintes. L'OIP enquête, recoupe, distribue des questionnaires auxquels plusieurs détenus répondent. L'association engage 2 procédures individuelles devant la Cour européenne des droits de l'homme et celle-ci collective devant le Conseil d'État, arguant d'un problème systémique et structurel. L'idée ici n'est pas d'obtenir une indemnisation, mais d'enjoindre l'administration à faire cesser ces atteintes aux droits fondamentaux. Ce qui est quand même assez intéressant, parce que souvent on demande quand même des dommages et intérêts, mais du coup, il se passe rien de plus, quoi. À la maison d'arrêt de Nîmes, chaque détenu dispose de 1,33 mètres carrés dans sa cellule. Hein, faut quand même, Patrick Spinozzi expose « En dessous de 3 mètres carrés, l'atteinte aux droits fondamentaux est constituée. Au-dessus, elle est appréciée au vu d'autres critères. L'hygiène, la vétusté des cellules, le temps passé hors de la cellule à travailler, à faire du sport. » La question des matelas au sol a cristallisé une bonne part des débats. Face à l'inertie de l'administration pénitentiaire, qui prétend ne pas pouvoir agir dans l'urgence, alors on ne sait pas comment ils vont pouvoir agir, hein, mais bon bref, Patrice Spinozzi s'est irrité. Pourquoi ne pas installer un lit de camp plutôt que de poser des matelas au sol ou sur des armoires renversées ? À propos de l'hygiène, un kit est distribué aux détenus, mais personne n'a pu dire au juge à quelle fréquence il était distribué. La discussion a également porté sur le cloisonnement des toilettes, inexistant pour des raisons de sécurité dès le ministère, sur l'accès aux salles de sport et à la bibliothèque, une fois par mois en moyenne, et sur l'accès parfois restreint aux services médicaux, notamment parce que le détenu malade n'est parfois pas extrait de la prison. En moyenne, on patiente 8 mois avant de voir un dentiste ou un gynécologue. Faut pas avoir un abcès, quoi. Il y a également le cas de ce vieil homme incontinent dont les co-détenus devaient changer la couche. Donc tout cela, selon la requête, est contraire aux articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui portent sur le droit à la vie et à la dignité des personnes. Ils sont absolus. L'État doit non seulement sanctionner leurs violations, mais également tout faire pour que ces droits soient effectifs. L'autre argument invoqué est l'article 8, relatif au droit à une vie familiale normale. S'il s'agit bien d'un droit fondamental qui ne peut être entravé, est-il fait obligation à l'administration de tout mettre en œuvre pour qu'il soit effectif, c'est-à-dire de participer activement à sa réalisation ? C'est une question inédite, un terrain vierge dans le cadre du référé liberté, a noté le juge. Reste la question de l'efficacité des mesures que pourrait prendre le juge du référé liberté. Pour le ministère, il existe des obstacles objectifs empêchant la mise en œuvre de ces mesures. Donc voilà, c'est quand même une façon sympathique de se décharger. Donc la décision doit être rendue dans la soirée du 30 juillet, donc aujourd'hui. Et malheureusement, si le juge ne force pas l'administration pénitentiaire à prendre des mesures d'urgence, il risque de ne pas se passer grand-chose avant un bout de temps.
Oui, surtout que là, on parle d'urgence, mais ça fait depuis 2012, et puis que les textes sont là, etc.
Quoi. Voilà.
Donc c'est de l'urgence relative. Eh bien, l'administration pénitentiaire aussi, à chaque fois, arrive toujours à répondre aux accusations qu'on lui porte. Là, c'était par rapport aux fouilles à nu à la prison de Maubeuge. Une requête, donc devant le tribunal administratif, eh bien, a été rejetée. C'était aussi l'OIP qui, mi-juin, dénonçait des fouilles à nu systématiques des détenus du centre pénitentiaire de Maubeuge en sortie de parloir et au retour de permission. Et aux yeux de la justice, il n'y a aucune preuve d'une telle pratique. Alors, pourquoi n'y a-t-il pas de preuves ? Parce que l'enquête est irrecevable. En fait, en 2013, c'est l'OIP qui est saisi par 3 détenus de la prison de Maubeuge, qui cible, selon eux, des fouilles systématiques à nu à l'issue donc des parloirs et au retour de permission. Et en théorie, elles ne sont pas interdites, ces fouilles à nu, mais la législation dit que les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques envers la sécurité de l'établissement, donc pas systématique. Donc il y a entorse à la loi pénitentiaire. Mais le seul témoignage mis au final, c'est le dossier d'accusation, qui selon le juge est maigre, parce que le seul témoignage de 3 détenus, alors que le centre pénitentiaire en compte 433, corroboré par aucune autre pièce du dossier, on ne sait pas de quelle, ne constitue pas un élément de preuve suffisant permettant d'établir qu'il existerait une pratique non formalisée de fouille intégrale systématique de l'ensemble des détenus. Alors, ce qui est intéressant, parce qu'ils disent qu'ils veulent d'autres preuves, mais on a bien dit que c'était une pratique non formalisée. Donc, la pratique existe, mais justement, le fait que le juge rejette la demande, d'abord parce qu'il n'y a pas eu d'enquête, ils n'ont pas fait d'enquête, Il y a des... Or, il a le pouvoir d'instruction, il aurait pu. Il avait la possibilité aussi de demander à l'administration pénitentiaire de produire des documents qu'elle a en sa possession. Et c'est justement le registre des fouilles. Et qu'elle est seule à posséder, puisque toutes les demandes de communication de ces documents au directeur sont restées sans réponse. Alors, la représentante de l'association poursuit. Ici, le juge attend de nous et des détenus que nous produisions des éléments que nous ne pouvons pas produire et se garde de les demander à l'administration elle-même. Il ignore totalement la jurisprudence européenne qui veut qu'en matière pénitentiaire, la charge de la preuve soit allégée. Donc voilà, on se retrouve que la parole de trois détenus ne compte pas. Il faudrait carrément une pétition, je ne sais pas, de l'ensemble des détenus. Alors que normalement, devant le droit, toute personne qui porte plainte, il pourrait y avoir une enquête. En plus, quand on dit enquête, ce n'est pas une enquête énorme. Il suffirait de demander à l'administration pénitentiaire les documents. Eh bien, l'administration pénitentiaire se défausse en disant qu'il n'y a pas de preuve. Donc, puisque vous n'avez pas de preuve de ce qu'on fait, c'est qu'on ne le fait pas.
Ouais, bah justement, en parlant de pétitions et de mouvements autres que juridiques, il y a à Réau, à la prison de Réau, donc les détenus, ils en ont assez, ils le font savoir par le biais d'une pétition qui réunit environ 550 signatures et qui circule encore actuellement parmi les 700 prisonniers, donc c'est pas un centre pénitentiaire mineur, quoi, c'est quand même une grosse tôle qui est assez récente d'ailleurs. Voilà, et ils dénoncent en fait les refus de permission de sortie qui par les juges d'application des peines du tribunal de Melun. En fait, ils menacent également d'actions comme ne pas regagner les cellules après la promenade. Alors, ces juges donc donnent des motifs de refus incohérents. Donc ça, c'est la compagne d'un détenu qui le confie. Donc, des motifs de refus incohérents, des prétextes fallacieux, genre demande prématurée, prononcé de la peine trop récent ou date de fin de peine trop lointaine. Donc, il faut savoir que du coup, ces permissions, c'est le seul moyen pour les détenus de passer plusieurs jours d'affilée avec leurs proches en dehors de la tôle. C'est censé, d'ailleurs, c'est reconnu par la justice, c'est censé préparer la réinsertion avant la sortie définitive, bien sûr. Et donc, alors, réaction de l'autre côté, Force ouvrière, donc représentant des matons. Ce problème ne concerne qu'une dizaine de détenus. Tiens, c'est étonnant, s'il y a 150 signatures, ça paraît surprenant quand même. Et souvent, les dossiers déposés sont incomplets et les permissions sont refusées quand les détenus ont agressé des surveillants. Donc ça, c'est Force ouvrière, merci à eux. Et donc, la vice-présidente du tribunal de Melun, elle déclare, pour contester ces refus qui sont des décisions judiciaires et individuelles, chaque détenu n'a qu'à faire appel de la décision. Voilà, donc ça c'est la réponse du tribunal, évidemment. On se doutait qu'ils n'allaient pas inciter les détenus à continuer leur mouvement. Voilà, donc ça c'est pour le petit tour de quelques prisons en France. On va se faire une pause musicale avec Chris Men, un artiste breton qui chante en breton, qui fait du rap en breton.
Ça s'appelle... Trop de la balle.
Et ça s'appelle Art politique aérienne, les politiciens.
Puis on get a hoe et puis on t'aide d'abri noir l'air. Piote de zeggen deu wat te brin wel ja ram han de dab tuten deu a rio no jo wa vit onder de dabrintje pino dan bi ba born pino dan bi ba wa baast te brin piote de dabrin wel ja dan bi pio so jo no no da un tiba ba host de ho mortis dan bi
Em na place tout zoberazet a c'hlein zo bet skart a c'hoar zo bet skarget ke vech ged e labour an eo zo bet skarzet klas kar en la c'hant vi kad mur a c'hant eget pen ar cheve kavet ar bank prene ne 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 dar prene dar mort mil mals a tro zoubis ken mal c'hant ve de bet e pen ar bars ke de ru gwen met e gwen var zo zidi a bars zo bet ginet ar huibet bet a ye poen non c'hover an ar c'hoc an bars nan eget tout chom dar c'hoai mos kok genet de tre reiz brez dar park en maiz o zite zezo ar pen i bez a gom ron convivejo kabinejo ke politike e ne tiwe le nor o de tom ar Ma c'est rallye l'os qu'elle ne tombe qu'or Mais de l'or, non, plus de zone, évidemment, mais t'sais Mime un bête de honte Parce qu'il qu'elle ne traversait le devant Barreille, breaks, frappe en qui d'armes à Car on manque qui me m'a déjà joué belle de Darfine Mais barreille, breaks, le morceau à révolution Politique aérienne, l'aérienne, voilà qu'est de soline Pété mes clés, trois, sous de côté, armour, je classe casse, mort, et go hob, à tout le m'dor Mère, t'as le bien, ce qu'est du gore et des hymnes Mais des rodelles, le ken, t'en mets l'air d'or Casse ta race, des racks, et casse, 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 rhum, de vivre, et lastes Soit ma classe, casse, tout nœud d'une mise, vipère sur d'or, business rhum Ni j'ai qu'est guette, c'est ma fée, herbe, leur paysan Mais d'or, à l'élise, et n'a dit l'élise, et le rhum, du diwar, mais n'a coupé ses noms, n'a ce qu'il avise Me ça, n'est rien qui fout de la rave, on doux, à gendou, avec un mur, à rhum Gagne toute récuse, à étude, à point de vue, nous, dans les jours, même qui mûne, rentre comme qui leur vie Gagne toute récuse, hey tu nous
hai il point di vino. Killer marocine, car en ma guim m'a dit j'abouais pelle de Darcy, mais bah race brace, commence à révolution, politique kérienne, l'aérienne, holla que d'insoline, bah race brace, entend killer marocine, car en ma guim m'a dit j'abouais pelle de Darcy, mais bah race brace, commence à révolution, politique kérienne, l'aérienne, holla que d'insoline.
Voilà, de retour, bien énergique, hein, de retour dans les studios de Canal pour la suite de Brutal, et donc on va traverser l'Atlantique, on va aller aux États-Unis. Donc en un an, on a entendu parler de la mort de Mike Brown à Ferguson, dans le Missouri, Eric Garner par les policiers new-yorkais à Staten Island, ou Freddie Gray des suites de son arrestation par des officiers de Baltimore. Et donc, là, vous avez sûrement entendu parler de Sandra Bland, je le prononce à la française parce que je suis mauvais en anglais, et donc qui est dernière en date à venir alimenter le débat sur les brutalités et les violences et les meurtres policiers à l'égard des Afro-Américains, et plus largement sur le racisme qui frappe la société américaine. Donc, on va revenir un petit peu sur Sandra Bland. Donc, elle avait 28 ans, afro-américaine, elle venait de Chicago, elle se trouvait dans le Texas pour passer un examen d'embauche pour un emploi dans une université locale près d'Houston. En fait, donc, l'entretien se déroulait le 9 juillet dernier et elle obtient le poste. Le lendemain, elle approche de l'université en voiture et elle est arrêtée par un keuf qui lui demande de se garer sur le bas-côté. Elle se gare, il sort de son véhicule, s'approche du sien et lui explique qu'elle a omis de mettre son clignotant alors qu'elle a changé de voie. Donc, sauf que très rapidement, donc, l'échange dégénère, la jeune femme se retrouve menottée, en état d'arrestation et enfermée à la prison locale dans le Texas. Et donc, elle ne pouvait pas verser la caution de $5,000. Et elle est restée 3 jours plus donc en prison. 3 jours plus tard, après son arrestation, donc le 13 juillet, elle décède dans la même prison par pendaison à l'aide du sac plastique qui recouvrait la poubelle disposée dans sa cellule. Conclusion, suicide, et c'est le médecin légiste qui le confirme. Mais en fait, du coup, ces rapports officiels, ben, ça fait pas taire l'indignation des familles et des amis. Et donc là, il y a quelques documents et témoignages qui sortent. Il y a notamment la vidéo de l'arrestation de Sandra Bland qui est sortie sur Internet. La bande appartenait à la police, puisqu'en fait c'était une caméra qui était sur le tableau de bord de la bagnole des keufs. Et donc elle a été rendue publique par les autorités en début de semaine dernière. Face à la pression citoyenne et nouvelle polémique, les images avaient visiblement été coupées et montées afin de protéger le policier. Donc une nouvelle version de la vidéo a quand même été mise à la disposition du public. Elle est d'ailleurs visionnable sur YouTube, elle dure une heure et on y voit à peu près, enfin pas tout ce qui se passe, mais du coup on va revenir dessus. En fait, en à peine 10 minutes, le contrôle routier se transforme en une confrontation entre Sandra Bland et l'officier. En fait, leur échange, ça commence par les deux véhicules qui sont à l'arrêt, l'un derrière l'autre, sur le bas-côté. Le flic se rapproche de la vitre de Sandra Bland pour lui expliquer les raisons de ce contrôle. Elle a changé de voie sans mettre son clignotant. Il récupère le permis de la jeune femme, il remonte dans son véhicule, et puis il prépare la contravention, et puis ensuite il retourne vers le véhicule et lui adresse la parole en lui disant « Vous avez l'air très agacé ». Elle, visiblement, elle reste très calme, elle dit « je le suis vraiment, je me suis mis sur le bas-côté pour vous laisser passer, et vous m'arrêtez pour me mettre une contravention ». Donc en fait, ouais, elle se mettait sur le bas-côté pour laisser passer la bagnole de keuf, quand elle n'avait pas mis son clignotant, il l'arrête. Donc, voilà. Alors, toute réponse du flic, « Ok, vous voulez bien éteindre votre cigarette, s'il vous plaît ?» Sans transition. Donc, elle répond qu'elle est dans sa voiture et qu'elle peut garder sa cigarette. Lui, il lui demande de sortir de sa voiture. À partir de là, le ton monte, il ouvre sa portière, il s'avance vers elle, il ordonne de nouveau de sortir de la voiture ou sinon il la fait sortir. Et elle lui répète « Vous n'avez pas le droit de faire ça ». Bref, l'échange est de plus en plus tendu et physique. On le voit introduire son buste dans la voiture afin de l'en extraire, puis la menacer avec ce qui ressemble à un taser. « Ne me touchez pas, je ne suis pas en état d'arrestation », dit-elle. Et là, il répond « Vous êtes en état d'arrestation. Elle demande pourquoi, il répond pas, il continue de lui ordonner de sortir et se met à hurler. Elle sort enfin en répétant sur un ton excédé que tout ça pour avoir omis un clignotant. Donc le policier la guide sur le bas-côté et là il sort du cadre de la vidéo et on voit pas ce qui se passe, mais en tout cas on entend toujours ce qui se passe. Et donc elle demande si le flic est content de lui, tout en demandant encore pourquoi il l'arrête. Il lui hurle dessus, il lui dit de se tourner. Donc là ça commence à monter en pression et puis là on l'entend dire qu'elle est pressée d'être devant un tribunal et lui lui répond qu'elle va en prison. Et du coup elle demande pourquoi et elle était menottée visiblement. Viennent ensuite des bruits de lutte, elle hurle qu'il lui fait mal à la tête et aux côtes et on l'entend ensuite pleurer. Une troisième voix indique que des renforts sont arrivés. Sandra Bland dit qu'elle souffre d'épilepsie et Brian Essigna, donc le flic en question qui l'arrête, répond juste « bien » avec une pointe de sarcasme dans la voix, donc ce qui indique que quand même il est pas là pour lui faire des câlins. Donc elle est placée à l'arrière de la voiture de police, on entend ensuite l'officier qui débriefe au téléphone avec sa hiérarchie et qui sait pas trop pourquoi il l'incrimine. A-t-elle résisté à une arrestation ou est-ce que c'est un cas d'agression sur officier, se demande-t-il. Bref, donc toute cette affaire elle est un peu bizarre. Le New York Times d'ailleurs dit que Brian Essigna, donc le flic, n'a pas outrepassé ses droits en arrêtant la jeune femme pour une infraction mineure, même si sa décision de l'arrêter est discutable, mais la colère et la violence du flic quand la jeune femme refuse d'éteindre sa cigarette sont totalement disproportionnées, ça c'est selon Christopher Cooper du New York Times. Et donc, à la suite de cette arrestation qui était un peu surjoué de la part du keuf, la jeune femme est donc poursuivie pour agression sur officier, placée en garde à vue, assignée à comparaître devant un tribunal quelques jours plus tard. Et donc le droit américain dans la plupart des états prévoit une caution qui est fixée par un juge dont le montant est censé être calculé en fonction des ressources de la personne, et si le prévenu peut pas payer cette caution, en fait il reste en prison en préventive jusqu'à la date de sa comparution. Et en fait le but de ce système, c'est d'obliger les prévenus à se présenter aux audiences puisque en fait à ce moment là leur caution leur est rendue. Et donc la caution de Sarah Bland est fixée à $5,000, elle peut pas payer, et donc elle n'est pas libérable sous caution. Elle reste en prison. En fait, ce qui rend cette affaire illégale, c'est qu'elle a été arrêtée et gardée en cellule sans que personne n'établisse qu'elle présentait un quelconque danger pour la communauté, sans qu'il n'y ait de débat contradictoire en présence d'un avocat au cours duquel cette question est posée, sans que personne n'établisse qu'elle risquait de s'enfuir, et donc il fallait absolument la garder en cellule. Ça, c'est l'avocat Alex Karakatsanis dans un article du site slate.fr. Alors, 3 jours après avoir arrêté, le 13 juillet donc au matin, Sarah Bland est retrouvée sans vie, pendue dans sa cellule à l'aide d'un sac poubelle, donc qui était placé dans la poubelle placée dans la pièce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Les autorités ont conclu à un suicide par asphyxie, ce qui est venu confirmer le rapport détaillé du médecin légiste rendu donc il y a quelques jours et dont les conclusions ont été révélées lors d'une conférence de presse. Alors, pourtant, la famille est quand même assez surprise des tendances suicidaires de Sarah Bland. Ses proches disent qu'elle était heureuse et passionnée, elle venait de trouver un travail, ce qui rend le suicide, je cite, incompréhensible. Un ami de longue date, donc ça c'est un ami de longue date qui a discuté depuis la prison de son arrestation, enfin le soir de son arrestation, il a pu discuter au téléphone avec Sarah Bland et elle a déclaré à ce moment-là qu'elle allait très bien, qu'elle attendait de sortir et de passer à autre chose. Donc pour lui, l'hypothèse du suicide n'a aucun sens. Et donc la NAACP, la grande organisation de défense des droits civiques américaine, a décidé de lancer sa propre enquête et de demander qu'une nouvelle autopsie soit réalisée de manière indépendante, en précisant qu'elle aurait pu être blessée lorsqu'elle a été jetée au sol lors du contrôle routier, ou qu'il est possible qu'elle ait souffert d'une commotion ou de lésions cérébrales. Donc l'enquête va continuer son cours, mais en tout cas cette affaire suscite évidemment l'indignation des élus, mais aussi des citoyens surtout, notamment en fait tous ceux qui ont rejoint le mouvement Black Lives Matter. Donc c'est un mouvement dont Sarah Bland d'ailleurs avait fait partie. Sur sa page Facebook, elle avait d'ailleurs publié des vidéos qui dénonçaient des brutalités policières à l'encontre des Noirs américains. Et donc d'ailleurs pour les Américains, la mort de Sarah Bland est le résultat de pratiques policières jugées discriminatoires, et en fait elle illustre comme de nombreuses autres affaires récentes, le racisme institutionnel qui marque encore les États-Unis. En fait plusieurs articles sont revenus sur l'histoire de la région du Texas depuis la mort de Sarah Bland, cette région qui compte donc 25% de population afro-américaine. The Atlantic d'ailleurs notait qu'on y a enregistré parmi les plus hauts taux de lynchage du pays entre 1877 et 1950. Donc le lynchage, c'était juste partir à la chasse aux nègres, hein, aux États-Unis. Et de quoi ?
Partir au lynchage pour les tuer.
Oui, voilà, c'est ça, évidemment. Et donc apparemment, selon les journaux américains, ce passé-là, en tout cas, serait pas bien digéré. Et d'ailleurs, on retrouve quand même encore au Texas des cimetières qui sont séparés avec les blancs et les noirs de chaque côté. Et donc, on peut préciser aussi que l'actuel shérif du comté, donc le comté où elle a été arrêtée, qui s'appelle donc ce shérif Glenn Smith, c'est l'ancien chef de la police qui a été démis de ses fonctions en 2007 après avoir accusé de brutalité et de racisme lors d'arrestations. Et ça l'a pas empêché d'être élu shérif en 2008 et réélu en 2012. Donc voilà, mais on peut quand même préciser que il n'y a pas qu'aux États-Unis où il y a des noirs qui se font buter par la police, hein, il y a aussi en France, hein, il y a juste à aller voir dans les cités. D'ailleurs, on parlera de violence policière un peu plus tard dans cette émission, avec notamment à Argenteuil un gamin qui s'est pris un flashball dans les couilles. On peut peut-être passer en Palestine ?
En Israël.
En Israël, ouais.
Alors, Amer Bajawi, 14 ans, détenu depuis 2 mois dans la prison israélienne de Megiddo, comparaissait cette semaine devant un tribunal militaire israélien et encourt une peine de 10 ans de prison pour jet de pierre sur une route empruntée par des colons dans son village de Yabad, près de Jenin. Donc, quel est le crime commis par Amer Bajawi ? Le 23 mai dernier, à 10h du matin, il se trouvait dans un olivier de son village, en Cisjordanie occupée, avec un copain, quand des soldats israéliens se sont rués sur eux, les ont menottés et embarqués les yeux bandés, les accusant d'avoir jeté des pierres en direction de voitures de colons israéliens empruntant la route 14, les conduisant à leur colonie illégale voisine. Pendant ses 6 premières heures de détention, Amer s'est vu refuser la possibilité d'aller aux toilettes et obligé de rester assis à même le sol d'une jeep, poignet lié. Jeep qu'il a transporté dans 3 centres de détention différents, rapporte l'ONG Defense Children International. Puis il a été incarcéré dans la prison de Megiddo, en Israël, en contravention de la 4e convention de Genève qui interdit à toute puissance occupante de transférer des habitants des territoires occupés sur ceux de la puissance occupante. Après des interrogatoires musclés, le jeune Amer a signé des aveux concernant le jet de pierre et devait passer en jugement le 28 juillet, devant un tribunal militaire qui peut le condamner jusqu'à 10 ans de prison, selon les lois dictées par Israël. Loi qui ne s'applique qu'aux Palestiniens, puisque les colons squattant illégalement sur les mêmes territoires ne sont pas concernés par ces sanctions, y compris en cas de délit similaire.
Oui, parce que les colons, ils attaquent. Hein. En plus, les colons, c'est des civils, là. C'est des jets de pierre, soi-disant, mais sur des voitures civiles, quoi.
Non, puis c'est quand même assez hallucinant qu'il y ait des sanctions, des délits suivant les personnes qui les perpétuent. Quoi.
Rappelez quel âge il a
14 ans, oui. Donc le Parlement israélien a confirmé le 20 juillet 2015 le projet de loi qui pénalise le jet de pierre de 20 ans de prison, hein, quand même, il faut le dire, 20 ans de prison pour un jet de pierre, pour ceux qui ont jeté des pierres sur des voitures en ayant l'intention de blesser ces voyageurs, et une peine de 10 ans pour ceux qui l'ont fait sans intention de blesser.
Ça, la nuance.
Oui.
Alors donc, ce sont des jets de pierre palestiniens, hein, c'est ceux-là qui sont condamnés, hein, faut préciser.
Oui, les autres, non. Donc l'UNICEF avait condamné en 2013 ces pratiques d'arrestation et de détention des enfants palestiniens dans un rapport qui concluait que la torture des enfants palestiniens dans le système de détention militaire israélien était très largement répandue, systématique et institutionnalisée. Rapport qui avait causé quelques remous et amené le gouvernement israélien à promettre des réformes dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les arrestations de nuit, le recours aux yeux bandés, l'information donnée aux parents, la possibilité pour l'enfant de voir un avocat moins de 4 jours après son arrestation et l'enregistrement des interrogatoires.
Mais pas l'arrestation et pas la condamnation. Mmh.
Donc ça, c'est l'ONG Defense Children International qui le rappelle et qui constate aussi que pratiquement rien n'a changé depuis. Pour une bonne raison, Israël a exclu de ses réformes tout ce qui est considéré comme une atteinte à la sécurité. Et le jet de pierre est une atteinte à la sécurité selon Israël. Ainsi, le jeune Amer n'avait jamais été informé de ses droits. Il s'est vu refuser de pouvoir parler avec un avocat. a été interrogé en l'absence de ses parents, lesquels ont été tenus dans l'ignorance de l'endroit où il était emmené par l'occupant. Donc on imagine déjà l'inquiétude des parents. Les fouilles à nu et les mauvais traitements restent monnaie courante pour les enfants palestiniens, et cela fait depuis 1967 que cela dure, selon l'avocat Gerard Horton. Même Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, a établi dans son rapport de juin dernier qu'une moyenne de 188 mineurs palestiniens par mois, âgés de 14 à 17 ans, sont détenus par Israël dans ses prisons militaires, record inégalé dans le monde, tout pays confondu. Et ce rapport annuel précise que ces enfants sont soumis à des mauvais traitements, reçoivent des coups, sont battus avec des bâtons et maintenus de longues heures ligotés. Donc on se demande un peu quand même combien il faudra qu'il y ait de rapports de ce type pour que les choses changent. Apparemment, on peut toujours dénoncer ces choses. Ça peut être même le fait du secrétaire général de l'ONU, mais derrière...
Au moins que cesse le soutien à Israël et que ça relance un peu la campagne de boycott des investissements, que les gens se responsabilisent un peu par rapport à ce que fait cet État. Quoi. On continue l'international, c'est à cheval entre l'Espagne et la France, mais peu importe, les polices, elles, collaborent. Et donc ça s'est passé le 7 juillet, les polices françaises et espagnoles, la police scientifique, des membres du GIPN, du RAID, tous ces gens-là pour interpeller deux membres présumés d'ETA, qui ont donc été arrêtés à Auxès mardi 7 juillet dans l'après-midi. Alors, c'est vrai, de parler d'ETA maintenant, il ne faut pas oublier que, eh bien, depuis presque 10 ans maintenant, une trêve a été déclarée et que même des réunions de conciliation se font pour justement régler ce problème. Eh bien, on dirait que c'est un peu pour saboter ce processus. Les arrestations se sont faites dans la violence, se sont faites vers 22h, où heureusement des amis ont emmené les enfants du couple qui s'est fait arrêter. Alors des réactions il y en a eu, notamment le mouvement politique Abersalé Euskal Herria Bai, qui exprime sa colère et qui dénonce la tentative de sabotage du processus de paix par l'État français. Et il y a eu des rassemblements pour dénoncer cela. L'arrestation de deux personnes et la découverte de caches d'armes, ça c'était aussi en l'espace d'un mois de nombreuses opérations des forces de l'ordre qui s'associent donc forces de l'ordre françaises et espagnoles. Que cette arrestation du 7 juillet était assez impressionnante et violente et qu'en fait on y voit un message de l'État français. Pour lui, la seule solution c'est la voie policière. En solidarité aussi un journaliste, Jojo Bidard, qui a été blessé par l'action des policiers dans la nuit du 7 au 8 juillet. Il y a aussi l'Association des défenses des exilés qui a dénoncé l'opération pour exprimer son soutien et qui dit que la France est soumise à l'Espagne pour éloigner la paix. L'opération a ajouté que la décision d'ETA de sceller les armes continuera malgré ces obstacles mis par les États français et espagnols. Alors, aussi interviewé le conseiller départemental, dit « Nous sommes vraiment à une période de recherche globale de paix ». Et là, sincèrement, ces événements le stupéfait. Et il dit « On ne peut que déplorer de tels incidents dans le contexte actuel où on essaie de construire un processus de paix. Un processus qui doit être accompagné et non freiné par ce type d'opération ». Et donc, voilà, c'était le 7 juillet. La police fait son travail.
On va se faire une dernière pause musicale avec Atari Teenage Riot, yeah. Avec le morceau Speed.
Down. God, kill me. No, gonna let me feel the other way. To the God.
Et voilà, et alors on retrouve à nouveau nos représentants de FO Pénitentiaire, ce syndicat. Je sais pas s'ils sont
on les aime bien, on leur donne la parole quand même assez souvent.
Ouais, mais je ne sais pas s'ils sont si mal à l'aise pour échanger pas de métier, mais enfin bon, voilà. Donc, FO Pénitentiaire, alors là, se plaint d'une détenue qui pousse à bout le personnel. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a FO Pénitentiaire qui se plaint, mais il y a quand même ce Sergio de Jouvela S2G qui, lui, écrit dans le journal donc des Vosges, par là-haut, hein, et qui, lui, bon, en tant que journaliste, eh bien, relaie cette parole des matons FO avec, un certain zèle. Alors, il parle d'une équipe excédée, qu'on pourrait qualifier l'état d'esprit donc, du personnel de la maison d'arrêt d'Épinal, notamment la structure femme, donc la gestion d'une détenue à la recherche permanente du conflit. Il s'agit bien sûr de Christine Rebailly, on en a parlé, de notre bergère qui ne supporte pas d'être enfermée. Et on le verra, je pense, dans la réponse, puisque en fait, elle n'a commis aucun délit pénal et que ce n'est que l'acharnement de l'administration pénitentiaire. Ces délits ne sont que par rapport aux matons, uniquement, qui ne supportent pas eh bien, sa colère et sa révolte. Alors là, il faut dire, la personne en question est une quadragénaire, ayant intégré, début mai, la maison d'arrêt d'Épinal. Cette femme, qui est placée en détention depuis novembre 2012, a déjà écumé plus d'une douzaine d'établissements, appréciez la verve. Comment expliquer ce chiffre hallucinant ? C'est simple, elle enfile un nombre impressionnant de sanctions disciplinaires. En fait, que des sanctions disciplinaires. Hein. Depuis son incarcération, elle a déjà eu droit à plus de 80 procédures à son encontre pour violences, agressions, insultes sur le personnel pénitentiaire. Ça, c'est le membre du bureau de FO de la maison d'arrêt qui parle. A priori, donc, le journaliste nous dit que cette détenue semble difficile à gérer et visiblement son arrivée sur Épinal n'a pas apaisé son tempérament. La situation est électrique, c'est le délégué régional FO qui pointe du doigt la direction centrale des services pénitentiaires qui ne fait que déplacer le problème à chaque fois qu'elle change d'établissement. Mais ce qui est le plus beau, c'est qu'on va voir qu'il parle un petit peu quelque part de privilège, en tout cas il parle d'un traitement de faveur. On nous demande de la traiter comme n'importe quel autre détenu et de ne pas répondre à ses provocations. Bon, pourquoi pas ? Je vois pas en quoi. Ben bon. Mais cette dernière peut téléphoner deux fois par semaine au lieu d'un seul coup de fil pour les autres personnes incarcérées. Elle n'a pas non plus de carte d'identité intérieure alors que tous les détenus doivent en avoir une. Enfin, la direction lui a fait signer un papier afin d'autoriser les surveillants à la fouiller après les parloirs. Or, elle se trouve actuellement en quartier disciplinaire et chaque individu qui se trouve dans ce quartier doit être obligatoirement fouillé. Cette autorisation n'est donc pas nécessaire. Il y a également d'autres petits privilèges qui s'accumulent. Ça, je ferme les guillemets. Tous ces éléments mis à bout semblent donc déboucher sur une situation devenue irrespirable pour le personnel. Donc,
Journalisme, hein, dis voilà. Donc.
Alors en fait, il semblerait que sur 17 détenus, on a fait dire à 12 détenus qu'elle avait un comportement agressif vis-à-vis des surveillantes. Ça, c'est la déléguée régionale FO aussi qui le dit. Et elle conclut, sa place serait plutôt en hôpital psychiatrique. Voilà, donc les syndicalistes FO maintenant deviennent médecins experts psychiatres. Alors du côté de la direction...
Ils sont multitâches.
Ouais. Multitâche, ouais. Du côté de la direction, alors là, c'est quand même un peu différent. Pas question de diaboliser ou banaliser un quelconque détenu. Et le directeur dit qu'elle ne bénéficie d'aucun privilège. Il n'est pas inhabituel d'avoir des détenus qui sortent du contexte local. Mais cette personne est gérée comme tout détenu, dont le respect du code du procédure pénale. Et en fait, c'est ça. C'est qu'à chaque fois qu'elle bagarre, l'histoire de la signature, tout ce qu'elle demande et tous ses privilèges sont en fait dans le cadre du code de la procédure pénale qu'elle leur impose systématiquement. Donc, notre journaliste dit que, vu les griefs à l'encontre de sa détenue, mais qui est-elle ? Qu'a-t-elle pu bien faire ? A priori, cette femme n'est pas une grande délinquante. À la base, c'est une bergère qui, en novembre 2012, s'est révoltée contre une fouille alors qu'elle rendait visite à son compagnon incarcéré pour une longue peine. Elle est alors condamnée à 2 mois de prison pour réaction à la fouille, hein, je précise. Mais ensuite, la quadragénaire va accumuler plus de... Alors, à nouveau, on répète ce chiffre, 80 procédures disciplinaires, ce qui va prolonger sa détention, en effet. Et elle, au lieu de 2 mois, eh bien, elle est toujours en prison. Pourquoi a-t-elle ce comportement qui ne fait qu'aggraver son cas ? Ce serait intéressant d'essayer de répondre à une telle question quand on ne supporte pas l'enfermement. Ses plus proches affirment qu'elle est une femme révoltée contre l'administration pénitentiaire, prête à beaucoup de choses pour dénoncer certaines conditions de détention. En tout cas, une chose est sûre, cette détenue possède une personnalité bien singulière. Notre journaliste aussi, je pense.
Alors, on va continuer avec des extraits de la lettre de soutien, de la lettre qui a été envoyé donc par le comité de soutien de Christine Ribailly, puisqu'il s'agit de Christine Ribailly dont on a déjà parlé à cette antenne.
C'est une nette réponse à ces attaques là alors.
Voilà, à ces attaques, donc qui a été envoyé aux institutions judiciaires et pénitentiaires, et également à FO pénitentiaire des Vosges. Donc à la direction de la maison d'arrêt d'Épinal, la direction régionale de Strasbourg, la garde des Sceaux, la rédaction de Vosges Matin, hein, qui a commis cet article sympathique, et la direction de la maison d'arrêt de Metz. Nous souhaitons réagir à l'article « Une détenue qui pousse à bout le personnel » paru dans le quotidien Vosges Matin du 9 juin 2015. Véritable tribune d'une section syndicale de surveillants qui se veulent à la fois juges, psychologues et médecins, cet article autorise et soutient ces surveillants dans un exercice qui dépasse leurs fonctions et vise à aggraver la situation de cette détenue dans la droite ligne du travail engagé depuis plus de 2 ans par l'administration pénitentiaire et la justice. Si cet article se garde bien de la nommer, il ne fait aucun doute que la détenue dont il est question est Madame Christine Ribailly, enfermée depuis novembre 2012 pour ses insoumissions à l'autorité de différentes institutions publiques dans la défense de ses revendications. Dans cette tribune, la section FO pénitentiaire des Vosges déclare par la voix de Madame Fadila Douki que la place de Madame Ribailly ne serait pas en maison d'arrêt mais en hôpital psychiatrique. Il est inacceptable qu'une corporation syndicale de surveillants s'arroge le droit de colporter les élucubrations du personnel sur l'état de santé d'une détenue. Quelle formation médicale possède ce personnel pour se permettre de tels diagnostics ? Si par la même voie de Vosges Matin, la direction de la maison d'arrêt des femmes d'Épinal veut donner à croire qu'elle ne partage pas l'avis de son personnel syndiqué, les faits montrent le contraire. En effet, rapidement, la direction donnait raison à la demande de la déléguée de FO en procédant à un signalement auprès de la préfecture. Le 17 juin 2015, Madame Ribailly était ainsi convoquée pour une expertise psychiatrique. Celle-ci n'a heureusement et pour l'instant pas donné lieu à une décision d'hospitalisation sous contrainte. Malheureusement, nous ne savons que trop bien à quoi peut servir le recours à l'institution psychiatrique dans la gestion des détenus par l'administration pénitentiaire. Loin de tout altruisme, cette pratique n'a d'autre but que de faciliter le travail du personnel pénitentiaire pour des cas de détenus trop récalcitrants au quotidien carcéral. Dans les faits, après les traditionnels transferts disciplinaires et autres placements au mitard ou en isolement, l'internement psychiatrique vient comme ultime sanction disciplinaire appelée par l'administration pénitentiaire. L'injonction de sédatifs et la camisole physique sont en effet redoutables pour ce qui est de casser toute velléité de protestation. Le personnel pénitentiaire se voit alors rapidement soulagé. Les détenus voient leur santé rapidement et dangereusement dégradée. Concernant Madame Ribailly, ce n'est pas la première fois que l'administration pénitentiaire brille par de telles pratiques. Il y a quelques mois seulement, l'administration de la maison d'arrêt des femmes d'Elzo à Strasbourg réussissait, par un signalement similaire, à faire placer Madame Ribailly en unité hospitalière à l'unité hospitalière de Nancy. Sitôt arrivée, la médecin psychiatre de service reconnaissait le caractère abusif de ce placement et procédait à la levée de l'hospitalisation sous contrainte. En 2011, c'était le centre pénitentiaire de Lyon-Corbas qui faisait procéder à un même placement à l'unité hospitalière du Vinatier à Lyon. Suite à un recours de la part de Madame Ribailly, le tribunal administratif jugea, a posteriori, ce placement abusif et demanda son annulation administrative. Nous dénonçons ces pratiques régulières de la part de nombreuses institutions, comme l'administration pénitentiaire, mais également de nombreuses autres institutions de l'autorité publique, forces de police et de gendarmerie, justice, mairie, préfecture, etc., qui, lorsqu'elles se trouvent face à une contestation de leur autorité, n'hésitent pas à juger comme fous leurs détracteurs afin de s'en débarrasser à grands coups de camisoles physiques et chimiques. Par ailleurs, nous tenons également à dénoncer des pratiques, malheureusement trop communes, qui visent à monter les détenus les uns contre les autres. Dans le même article de Vosges Matin, il est fait référence aux soi-disant inquiétudes pour leurs surveillantes, formulées par courrier, d'une dizaine de détenus de la maison d'arrêt des femmes d'Épinal. Nous ne savons que trop bien comment fonctionne le chantage, aux sanctions d'un côté et aux remises de peines supplémentaires et petites faveurs de l'autre. Dans de telles conditions, il devient difficile de refuser quelconque demande du personnel pénitentiaire qui, quant à lui, combat toute forme de solidarité entre détenus. Depuis maintenant plus de 2 ans et demi, Madame Ribailly est incarcérée dans vos prisons. Initialement condamnée pour avoir contesté l'arbitraire dont fait preuve l'administration pénitentiaire face aux familles et proches de détenus, mais également pour son engagement contre le prélèvement ADN, le fichage de la population, la loi LOPSI 2, le puçage et la vaccination obligatoire des brebis, et d'une manière générale, toutes les situations arbitraires générées par les autorités publiques. Bien qu'incarcérée, Madame Ribailly continue de dénoncer les situations qu'elle subit et réprouve. En détention, il s'agit notamment des fouilles systématiques pratiquées par la plupart des établissements pénitentiaires en France, et ce, malgré l'interdiction posée par la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Il s'agit également des cartes de circulation imposées pour tout déplacement à l'intérieur de la détention, continuum de la logique de fichage généralisée qui traverse la société, et plus généralement, toutes les humiliations, chantages, violences, morales comme physiques, que peut produire le quotidien carcéral sur l'ensemble des détenus. Alors non, contrairement à ce qu'en disent les élucubrations des surveillants de FO, si traitement spécifique il y a avec Madame Ribailly, ce n'est certainement pas un traitement de faveur, mais bien un ensemble de pratiques qui ne visent qu'à la faire renoncer à ses revendications, quitte à rallonger son incarcération et à mettre à mal son intégrité physique et morale, ainsi que celle de ses proches. Donc voilà pour l'extrait du courrier envoyé par le collectif de soutien de Christine Ribailly.
On va parler d'Argenteuil maintenant avec un tir de flashball sur un garçon de 14 ans qui a été gravement blessé. Ça s'est passé dans la nuit du 13 au 14 juillet, donc à Argenteuil comme je disais. Et donc c'est un jeune qui a reçu un tir de flashball. En fait, il y a une enquête qui a été confiée au parquet de Pontoise à l'IGPN. Normalement il devrait y avoir une identification et une audition des fonctionnaires en intervention ce soir-là à Argenteuil. Et donc dans la nuit en fait du lundi 13 au mardi 14, Amine, 14 ans, a été grièvement blessé. D'après ses parents, leur fils était allé prier vers 23h à la mosquée d'Argenteuil pour célébrer la nuit du destin, l'une des nuits de la fin du Ramadan. Et donc après avoir quitté la mosquée, Amine et quelques-uns de ses amis seraient allés s'amuser avec des pétards dans un parc de la ville, et ben oui, c'était le 14 juillet. Son père poursuit, il y avait déjà quelques échauffourées entre des jeunes et la police à cause des pétards du 14 juillet. J'ai donc envoyé un SMS à mon fils lorsqu'il était à la mosquée pour lui dire d'éviter de passer par la dalle d'Argenteuil. Il a obéi et est allé s'amuser en contrebas de la dalle avec ses amis. Il jouait avec des pétards comme tous les gamins pendant le 14 juillet et l'arrêté d'interdiction n'interdisait même pas les petits pétards. Au même moment, selon Amine, par le biais de sa mère, un groupe de jeunes s'est mis à courir, peut-être pour fuir la police, et son père ajoute que lui et ses amis n'ont pas couru car ils n'avaient rien à se reprocher, et puis son fils portait une djellaba blanche, ce qui rend toute course plus difficile, et là il a vu un policier le mettre en joue avant de recevoir un tir de flashball au niveau du ventre, du bas-ventre, il a un testicule éclaté. Donc il a été ramassé par ses copains, même pas par les flics, puisque les flics n'ont rien fait à part lui tirer dessus. Et donc, je vais pas vous détailler le compte-rendu du centre hospitalier, mais effectivement, il a été gravement blessé au niveau des testicules. Il a été opéré pendant 3 heures. Et donc le père d'Amine dit qu'il est allé à la mosquée pour interroger des gens présents à ce moment-là, et tout le monde confirme que son fils avait juste des pétards, rien de dangereux qui aurait pu justifier l'acte du policier. Quelques jours plus tard, à Argenteuil, il y a eu un rassemblement contre toutes les violences policières et en soutien avec Amine. C'était le 23... Non, c'est pas ça. Ça y est, je suis perdu dans mes notes. Bref, c'était très récemment. Voilà, bon, j'ai plus la date, mais on essaiera peut-être d'en reparler, là, le temps court.
Il y aura une suite, sûrement, suite à l'enquête.
Oui, il y aura forcément une suite. Ouais. Enfin, en tout cas, on espère qu'il y aura une suite, mm-hmm. Même si on n'a pas beaucoup d'illusions sur la justice française quand il s'agit de condamner des policiers qui tirent sur des gens.
D'accord.
On va peut-être s'arrêter là. Mm-hmm. Voilà, c'est la fin de Bruit de Tôle. On est en direct chaque jeudi sur Canal Sud de 19 à 20h, 92.2, et puis en rediffusion chaque vendredi de 17 à 18h sur la même antenne. Vous pouvez également réécouter toutes les émissions, les dernières émissions de Bruit de Tôle sur le site de Canal Sud, www.canalsud.net. Et si vous souhaitez nous contacter, eh bien, vous pouvez le faire par exemple par mail à l'adresse suivante, bruit de tôle tout au plus. pluriel, @no-log.org, ou bien alors par courrier, émission Bruit de Tôle, Canal Sud, 40 rue Alfred Duméril, 31400, Toulouse. Je crois que j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à dire en fin d'émission.
Voilà, on ne se retrouve pas jeudi prochain, parce que le premier jeudi, c'est le rendez-vous avec l'Envolée.
Alors,
on espère qu'ils ne sont pas en vacances.
Voilà, on espère qu'ils ne sont pas en vacances, voilà. On ne sait pas. Et voilà, donc on se dit à dans 15 jours, et sur ce, portez-vous bien.
Bonsoir.
La liberté, c'est toute l'existence, mais les humains ont créé les prisons, les règlements, les lois, les convenances, les ateliers, les bureaux, les maisons, et les raisons. Alors disons, mon vieux copain, la vie est belle. Quand on connaît la liberté, n'attendons plus, partons vers elle. L'air pur est bon pour la santé, partout, si l'on en croit l'histoire, partout. On peut rire et chanter, partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Pourquoi faut-il se compliquer la vie pour de l'argent, se faire des cheveux, alors qu'on peut vivre à sa fantaisie? Quand on est libre, on fait tout ce qu'on veut, on est heureux selon ses voeux. Mon copain, la vie est douce, vivons ce que vivent les fleurs, ne pas en foutre une secousse. C'est là le secret du bonheur, partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté. Il ne faut pas songer au mariage, quand on est fait pour courir les chemins, en attendant d'être assagi par l'âge. Contentons-nous d'amour sans lendemain, c'est le destin, mon vieux copain, la terre est ronde, les femmes vont de tous côtés, quand on sera au bout du monde, il sera temps de s'arrêter partout, si l'on en croit l'histoire, partout, on peut rire et chanter, partout, on peut aimer et boire. À nous la liberté, à nous la liberté.